Deuxième heure de Sweet Home Chicago avec notre invité du jour. Il s'agit d'Arnaud Fradin du groupe Malted Milk qu'on va découvrir, je pense, pour certains d'entre vous, dans un disque sorti tout récemment. Ça date d'octobre chez Blues Productions. C'est le EP de Malted Milk, Let Me Ride, dont on écoutera de larges extraits aujourd'hui. Puis on reviendra également sur la carrière de Malted Milk et puis d'Arnaud Fradin, bien sûr, qu'on va avoir au téléphone dans quelques minutes. Voici en attendant ce premier titre, Let Me Ride. C'est Malted Milk, version 2021. Let Me Ride, c'est le titre de l'album et c'est le titre du morceau qu'on vient d'entendre et c'est signé Malted Milk avec à sa tête Arnaud Fradin. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va,
c'est vous ? Super, super content de te parler à nouveau. Il fait un temps de merde sur Nantes, c'est comme à Caen, on est d'accord,
hein ? Ouais, grave, grave, bon. C'est pas très beau.
Hein. Ouais, alors comment vas-tu ? Parce que là, en ce moment, on est en train de... J'imagine, tu es en train, avec tous tes comparses de Malted Milk, de subir l'assaut de tous les journalistes, ceux qui veulent suivre la sortie de cet album, qui s'est passé il y a quoi ? Il y a un mois, c'est ça, c'est sorti ?
Ouais, exactement, ouais. Non. C'est pas véritablement un album, puisque c'est plutôt un EP.
Oui.
5 titres du coup qui est vraiment digital, donc là en fait on n'a pas de support physique, donc c'est un peu c'est un petit peu un petit enchaînement vers un album pour l'année prochaine.
D'accord.
On a préparé. Mais en tout cas, on l'a fait avec amour et puis c'était vraiment un moment qu'on a passé pas mal sur le confinement en fait, enfin, sur la période du confinement quoi.
Exactement. Donc ça répond à une des questions qu'on pouvait se poser. Est-ce que l'album va sortir en physique? Peut-être pas. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant.
Ouais, pour l'instant non. Après, peut-être que l'idée, ce serait de faire. J'aimerais bien moi faire un vinyle de ce EP.
Voilà.
Ça serait vraiment. Enfin, moi, je sais qu'en plus il y a des écoutes. Enfin, genre les personnes qui écoutent Maltel Mix sont souvent des gens qui aiment bien aussi le support vinyle.
Voilà, exactement.
Par rapport à la musique, donc j'aimerais bien qu'on fasse ça, j'aimerais bien.
Alors, on va évoquer ce disque, ce mini-EP tout à l'heure, Arnaud, mais j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on revienne un petit peu sur la carrière de Maltel Mix, parce que c'est un groupe qui existe, bien de rien, depuis presque un quart de siècle, je sais pas, j'ai pas su situer 1998, 99 ou encore avant.
Ouais, c'est un petit peu avant, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de... Ouais, puis le début, c'était vraiment le duo.
Oui.
Donc, tout début de Maltel Mix, je me souviens, moi, quand j'ai trouvé le nom du duo, parce que c'était même pas un groupe en fait. Ouais, c'était vraiment 97, hein, enfin, je pense 97-98 en gros quoi.
Et c'était avec Emmanuel Frangel à l'harmonica.
Ouais, tout à fait.
Et donc, Maltel Mix, bien sûr, à cause ou grâce à un morceau de Robert Johnson, j'imagine.
Tout à fait, oui, étant donné qu'on jouait beaucoup, enfin, jouait avec traditionnel et beaucoup de morceaux de Robert Johnson, j'ai fait un peu comme les Rolling Stones.
Oui.
Avec Muddy Waters, quoi, qu'on choisit Rolling Stone comme nom de groupe, quoi.
C'est, oui, parce que Rolling Stone s'était déjà pris, donc tu t'es dit, je vais faire Maltel Mix.
Bah ouais, exactement.
Voilà. Ce que je te propose, c'est de revenir en musique sur cette double décennie discographique et un premier album qui était sorti en 1999. Tu te souviens de ce truc-là?
Ouais, je me souviens très bien.
Allez, un petit extrait de cette intro.
Carrément, ouais.
Ça s'appelait Straight Woman Blues.
Ouais, exactement, ouais.
Alors Arnaud, il y avait un groupe complet déjà, hein, c'était plus déjà le duo, il y avait basse-batterie derrière, et puis beaucoup d'harmonica dans les premiers albums en fait, hein, avec Emmanuel Fassard.
En fait, c'était un peu mon intergo, parce que c'est vrai que dans le groupe, on se partageait beaucoup de choses par rapport aux compositions, par rapport aussi à l'organisation autour du projet. Et puis, il y avait une vraie présence de l'harmonica dans le projet, à ce moment-là, en tout cas, jusqu'à tard, en fait, parce que on a joué ensemble jusqu'en 2007.
Ouais, 2006-2007, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça, voilà. Puis 2007, en plus, dès qu'on les passe ensemble, j'avais envie de faire ses propres expériences de son côté, tenter d'autres choses. Et du coup, il a quitté le groupe, et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me suis posé pas mal de questions, parce que, à l'époque, il était quand même, c'était un pilier pour moi dans le projet.
Oui.
Et la question s'est posée de savoir si je continuais ou si j'arrêtais le groupe en fait, parce qu'on avait vraiment créé ça ensemble au départ. Donc c'est vrai que c'est pas évident comme ce genre de position. Et sachant que moi déjà à ce moment-là, je commençais à me diriger vers la soul et que j'avais cette envie de faire peut-être évoluer vers autre chose. Et sachant qu'il partait, je voulais pas forcément prendre un harmoniciste.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu l'orgamone qui a remplacé qui a remplacé un petit peu ça avec les cuivres. Et puis on est parti sur quelque chose de beaucoup plus soul, un petit peu moins blues. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, j'ai eu une vraie interrogation de me dire est-ce que je garde le groupe. Et c'est vrai que vu que un chemin avait été quand même parcouru jusque-là et qu'on était quand même dans une constante évolution musicale, voilà, même si Manu était plus là, c'était pour moi différent. Hein. C'est clair et net, ADN était différent. Mais je me suis dit, après toutes ces années de travail, c'est dommage de... Tout en restant quand même dans le même style de musique, de partir sur un nouveau projet, quoi, de remonter tout à zéro. Et moi, j'ai décidé de continuer. Et je pense que j'ai bien fait au fond, parce que
évidemment,
ça a été un peu derrière.
C'est clair. Et alors, pour illustrer ce que tu disais à l'instant, c'est vrai qu'il y a eu des changements d'orientation musicale, mais c'était quand même concomitamment avec toujours ta collaboration avec Manu, parce que quand on écoute ça, là, on est sur Easy Baby, hein. Là, on est en 2004-2005. Il est encore dans le groupe, il y a encore de l'harmonica, et déjà, on sent des rythmes un peu plus funky. Voilà.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a déjà un côté funky sur le premier album. Hein.
Ouais, alors ça, c'est ce que tu qualifies de premier album, c'est ça, Easy Baby.
C'était le premier album qu'on avait, alors qu'il a été très peu distribué. Parce que je crois que la boîte s'était un peu cassée la gueule, de distribution à l'époque.
Celui de la vache, hein, qu'on soit bien d'accord.
Ouais,
sur
exactement, la vache. Et en fait, il est sorti, hein, cet album-là, mais Il a été distribué à un moment donné, Mosaïque, je crois que ça s'est arrêté au bout de quelques années.
C'est vrai, Mosaïque, oui, bien sûr.
Du coup, c'était, voilà, dans ce cas, c'est une chouette expérience qu'on avait gagné un tremplin, c'était à Villeneuve-sur-Lot.
Ouais.
Je me souviens très bien. On avait volé la première place au Flying Saucer.
Salut Fabio, si tu nous écoutes.
Depuis, on s'entend pas, hein, depuis, on s'est jamais reparlé depuis.
Ah purée. Alors dis donc, voilà.
En tout cas, tu vois, ça remonte à loin, mais oui, et du coup, on avait gagné en fait le prix de ce tremplin, et c'était un album, et on avait enregistré Villeneuve-sur-Lot.
Oui, et donc ça donnait ce disque Easy Baby avec Carl Davis, Zeb Hines, Vincent Polévilla et Arnaud. Arnaud Oula, voilà, ça c'est des gens qui sont invités sur ce disque chez Bad Bacon Records.
Ouais, bah, c'est cet label qu'on avait monté à l'époque.
Une question toute débile, ouais, que je veux te poser depuis des années, Bad Bacon, c'est à cause de la chanteuse Laurence Bacon ou ça n'a rien à voir?
Non, rien. c'était pas mal. Ce logo, c'était un toaster. C'était un toaster avec des trucs, des bacon qui volent dans l'air.
Oui, voilà.
C'est ça, voilà. Bon, c'était un concept.
Avec Carl Davis, donc, avec qui tu t'es produit pas mal de fois sur scène.
Ouais, le moment où on avait rencontré Carl à Nantes, qui était souvent à Nantes. Et puis, ça, c'était un album qu'on avait enregistré chez un copain organiste. Et puis on avait mixé, je crois qu'on avait mixé dans ma chambre. Hein.
D'accord, oui, un petit peu comme Robert Johnson.
Avec
Albert,
Milouchian. Et puis j'aimerais bien le ressortir à un moment donné, ou le rééditer un jour, parce qu'il n'est plus du tout. Ouais. Enfin, il n'a jamais été ressorti depuis toutes ces années.
En vinyle, pourquoi pas?
Pourquoi pas? En fait, on est en train de réfléchir aussi à ça, parce qu'il y a des albums. C'est une marque dans le temps. Bien sûr que quand je l'écoute après des années, je peux me dire que. On a fait des progrès, mais bon, il y a quand même des choses qu'on les réécoute que j'aime bien, en fait, quoi. Je trouve qu'il ne faut pas avoir honte de son passé. Hein.
Bah, évidemment, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y rejette une petite oreille de temps à autre. Tiens. Allez, pour le plaisir. Voilà, Monty Milk avec l'harmonica de Manu. Et puis, quelques années après, on se retrouve avec ce disque déjà fort ressemblant à ce que tu fais maintenant, Sweet Sour Blues. Et là, c'était vraiment le tournant, en fait, non?
Ouais, c'était vraiment un tournant, ce disque-là. Parce que ça a été c'était un moment dans le groupe où il y a eu le changement d'équipe aussi. On a créé le disque avec une équipe, et après, finalement, ça a enchaîné un petit peu sur un tout nouveau projet autour de l'orgamin, des cuits, des arrangements, des morceaux qu'on a écrits avec Carl Davis. Et puis. Ouais, c'était un tournant parce que c'était aussi le début de notre collaboration avec Weva Honda, le tourneur.
Ouais.
Qui a été le tourneur pendant plus de 10 ans. Avec qui on a fait également le projet avec Tony Green. Et du coup, c'était un vrai tournant parce que là, il y a eu une confiance qui s'est créée aussi avec Dixie Frog, grâce à notre tourneur. Enfin, sur pareil, quand on est un petit groupe et qu'on n'a pas beaucoup de partenaires. Pour enclencher un tourneur, c'est pas facile parce que le tourneur va te dire que t'as pas de label et le label va te dire que t'as pas de tourneur. Et tu peux tourner en rond longtemps comme ça.
C'est clair. Et Dixie Frog, qu'est-ce que ça t'a apporté de signer pour Dixie Frog à l'époque?
Plein de choses parce que c'était le label de blues français.
Ouais.
Et puis quand on a commencé à bosser avec eux, c'est vrai que c'est un label sérieux qui avait un souci de faire des beaux disques. Aussi bien visuellement que dans le contenu.
Mmh.
Et puis du coup on avait une structure autour de nous à ce moment-là parce qu'on avait un manager qui était plus ou moins stagiaire en fait dans la structure d'association. Et il s'est trouvé qu'on est tombé sur une pépite, enfin un jeune très motivé qui est d'ailleurs fait sa carrière maintenant de chargé de production dans des boîtes et tout ça, mais à l'époque tout jeune Robin Godet,
d'accord.
Robin Godet qui était le manager, il bossait 40 heures par semaine pour le groupe. Et c'est vrai que du coup on avait des chiffres et en même temps nous de notre côté on fait quand même bosser des attachés de presse en dehors de ceux qui avaient produit des chiffres. Enfin, on a vraiment je pense c'est une efficacité. Je pense que c'est comme tous les projets, il y a un moment donné où il y a des bons éléments s'alignent et puis ça fait qu'il se passe des choses quoi. Et c'est vrai que là on a eu de la chance de tomber sur un bon tourneur, un bon booker qui était Johan Fenu et qui était tout pareil, tout débutant chez Noé Vanda, qui était limite stagiaire.
Ouais.
et qui aujourd'hui est un incontournable, je pense, dans le réseau blues et musique aussi, même chanson française, parce que maintenant il a monté sa boîte qui s'appelle Bluebird,
oui.
King, je crois. Enfin, bref, en tout cas, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu une concordance de bons éléments.
Il y a tout plein de noms comme ça qui reviennent, c'est vrai, au fil des années. Là, on est en 2010 pour la sortie de l'album chez Dixie Frog, mais je crois que l'album était sorti en autoproduction en 2009, si je me souviens bien, ouais. Sweet Soul Blues.
Ouais.
Et puis juste
ouais.
après, chez Dixie Frog, il y avait ça. Soul of a Woman, c'est un premier hippie que tu as pu faire avec notamment Carl Davis, non?
Oui, alors, ouais, ce sujet.
Pour l'écriture, en tout cas, pour l'écriture.
Ouais, ça, ouais, tout à fait, ouais. Oui, si, c'est pas mal. En fait, alors, c'était un morceau, c'est un bon exemple du travail du groupe, parce que c'était un morceau qu'on avait commencé à travailler avec Carl.
Ouais.
On n'avait pas réussi à trouver une forme qui nous plaisait dans Sweet Soul Blues, pour ce titre-là. Et ce titre-là, je l'ai reproposé, enfin, je l'ai réécouté à Igor.
Igor Pichon, on va citer Igor.
De bassiste, et
eh ben oui.
Voilà, compositeur, enfin, qui est quand même très important depuis pas mal d'années.
Mm.
Et du coup, tout de suite, j'ai dit, ouais, la descente d'accord, c'est intéressant, on pourrait peut-être partir là-dessus. Et du coup, on a vraiment arrivé à trouver, je trouve, la version qui correspondait vraiment musicalement à l'écriture de la chanson. Et enfin, même tous les arrangements, enfin, c'est encore un morceau qu'on aime jouer de temps en temps. On dit, tiens, pourquoi on va se le jouer, parce qu'on ouais. aime bien ce morceau. Et il représente bien Maltenix d'ailleurs.
Et à cette époque-là, ouais, c'est vrai, au niveau des arrangements et puis de l'ambiance. Et à cette époque-là, il y avait énormément de Normands dans le groupe. On peut citer, donc tu l'as fait, Igor Pichon pour la basse, Gilles Delagrange ouais. pour la batterie. Et puis.
Nicolas Marie.
Et voilà, Nicolas Marie au clavier. Donc il y a pas mal de gens qui viennent de chez nous, hein, de Caen, la région de Caen, on va dire.
C'est clair, ah ben non, mais il y a une aventure, on s'est fait envahir.
Mais complètement. Et du coup, le blues normand, ben, on se retrouve un petit peu en slip à cause de toi, non?
Exactement, ouais, ouais. Ben, c'est un groupe qui s'est impliqué dans un autre groupe.
Ouais, ouais, ouais.
Et ouais, c'était Spoonful. C'était
Spoonful.
Non, mais en fait, ça s'est fait très naturellement. T'as pas trop posé de questions. Igor, je le connaissais pas en tant que bassiste, il est venu à la base, du coup, parce qu'on a plus de bassiste,
oui.
et puis petit à petit, bah, on a un batteur, et puis on a. Et c'est vrai que du coup, écoute, ça a été, enfin, en tout cas, moi, c'était un mariage heureux, parce que ça a créé aussi, moi, un petit coup de boost, d'avoir des gens plus jeunes, qui avaient aussi tous cette expérience, quand même, une bonne expérience de la musique, déjà du style de musique, qui était proche de celui qu'on jouait avec Maltese Milk.
C'est vrai.
Donc c'était parfait, j'avais pas besoin de leur dire comment jouer, pas besoin de leur dire. Enfin voilà, c'est vrai que du coup c'est cool parce que c'est pas toujours facile évidemment, tu peux trouver des super dicos, mais quand ils ont pas forcément la culture de cette musique là, faut quand même leur expliquer plein de choses.
Ouais, ouais. Là, on est aux alentours de 2010-2011, c'est un petit peu le tournant, effectivement, on l'a évoqué. Et puis ensuite, on arrive toujours chez Dixie Frog avec ce Get Some, dont un titre super dansant dans la danse. Voilà, ça sur scène, ça donne. Hein. Moi, je me souviens vous avoir vu à l'époque, c'était, c'était quelque chose. Maintenant, là, pour New Orleans, Louisiana, hein, c'est une de tes influences depuis longtemps. C'est pas tellement Chicago, c'est plus la Nouvelle-Orléans, ce qui te fait rêver en musique côté américain.
Ouais, moi, j'avoue que c'est un mélange de plein de choses. Après, c'est vrai que c'est tellement vaste, la musique noire américaine. Enfin, je veux dire, tous les styles de soul, de blues. La musique, ouais, la Nouvelle-Orléans, Memphis, tout ça, c'est vrai qu'on est un peu, on n'a pas trop de barrières dans tout ça. Après, on crée un petit peu au fil du temps, sans trop avoir forcément des références toujours très précises, quoi. Enfin, je veux dire, l'idée des fois, c'est de se laisser un peu aller, sans forcément se dire, ouais, c'est référencé Memphis Soul, c'est référencé Nouvelle-Orléans. Il y a tellement de choses musicalement, même encore aujourd'hui, quoi. C'est vrai que du coup, c'est vaste.
C'est un voyage que tu as fait, que tu as eu l'occasion de faire, Arnaud. La Nouvelle-Orléans.
Ouais, la Nouvelle-Orléans.
Ouais.
Bah, écoute, la Nouvelle-Orléans, c'est mon premier voyage aux États-Unis.
Mm-hmm.
Quand j'ai eu 21 ans.
Oui, ça remonte au début de la création de ton duo, même un petit peu
avant. Ouais, c'était 96.
Mm-hmm.
96, et j'avais 21 ans, tout juste, et. Et du coup, je partais de Nouvelle-Orléans, je partais tout seul. En fait, c'est mon premier initiatique parce que je partais avec mon dobro, ma guitare. Je me souviens très bien de ce voyage parce que ça m'a beaucoup marqué. Et le fait d'être tout seul, c'était super parce que du coup, ça m'a forcé à aller voir les gens, à parler anglais.
Ouais.
J'ai même joué un peu dans la rue, j'étais faire des bœufs. J'étais aussi baladé du côté d'Austin, Texas à l'époque.
D'accord.
J'avais fait Nouvelle-Orléans, Austin, quoi. Et c'est mon premier voyage, quoi, vraiment en anglo-saxon parce que. À l'époque, j'avais pas encore été en Angleterre non plus. Donc du coup, ouais, c'était cool, quoi. C'était un peu comme un poisson dans l'eau, finalement.
J'imagine. T'as pu buffer avec des gens comme Brian Lee, par exemple, ou...
Ouais, j'ai vu en concert, j'ai pas vu lui. Mais j'ai vu plein de gars, ouais, il y avait Big Al Carlton, des mecs comme
oui,
ça.
Oui.
Je sais plus, je pourrais plus te citer après. Il y a certains groupes que je connaissais pas, que j'ai connus après, mais j'ai même vu... Je me souviens, sur le voyage-là, j'ai vu notamment Kim Wilson, les Fabulous Thunderbirds, j'avais vu au Soft Blues.
C'était
le
groupe de Kid Ramos, ça.
Ouais, alors, la guitare, à l'époque, quand j'ai ce concert-là, c'était Troy Gonya.
Je sais pas si tu Troy Gonya, d'accord, d'accord.
Super.
Ouais,
ouais. Genre, là, mais super, j'adorais ce mec-là. Et puis, bah, j'ai vu, entre autres, des trucs comme aussi, comme... George Clinton, tu vois, dans mon petit Petit Daf. C'était chaud.
Ouais, 96, ce voyage à la Nouvelle-Orléans.
C'était l'année des JO d'Atlanta, tu vois.
Ah ben oui, effectivement.
Je me souviens bien.
Enfin, on était en train d'écouter. On était en train d'écouter Get Some, et puis on va maintenant t'écouter en train de présenter un titre, Arnaud. C'est en live.
On va continuer avec un morceau qui s'appelle Dabam pour finir, s'il vous plaît.
Voilà, ça c'était enregistré le 10 octobre 2013, c'est sorti l'année d'après, en 2014, sous le nom de On Stage Tonight, Malted Milk with a Special Guest, avec une pochette à l'envers, chez Dixie Frog. Là, une sortie qui a compté, enfin en tout cas pour moi, quand j'ai reçu ce disque, j'ai pris une grosse baffe. et ce titre archi dansant, qui dure 9 minutes, version live. On est, voilà, je l'ai dit, en 2013. Et là, c'était juste avant cette rencontre avec Tony Green. Tony Green, on va écouter un extrait de l'album que tu as fait avec cette chanteuse américaine. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette collaboration avec Tony Green, Arnaud?
C'était une collaboration qui est venue par l'initiative de notre tourneur Nouvelle Vanda à l'époque avec Jean-Hervé Michel.
Ouais.
Moi j'avais pas cette idée là au départ et puis c'est lui qui m'a dit ça. Au début j'ai eu un peu peur hein, quand il m'a dit ouais, on pourrait faire un truc avec une tendeuse. J'ai dit non, je suis pas au niveau là. Et puis non, après je me suis dit non, c'est dire que c'était autre chose.
Ouais.
Sortir un peu de sortir un peu de nos habitudes. Sachant qu'en plus il y a eu Sébastien Danchin qui suivait le projet artistique avec nous et tout ça, et du coup c'est vrai que j'ai tout de suite compris que c'était super positif de sa part et que ça nous a amené autre chose, que ça nous a amené l'expérience de travailler avec quelqu'un qui était pas de notre génération, pas de notre culture d'origine, qui vient de là-bas, qui a vraiment cet ADN de la soul, du blues. Puis Memphis, pour moi, c'est vraiment le carrefour, quoi. Pour moi, Memphis, c'est vraiment le carrefour de toutes les musiques que j'aime.
Ouais.
Du coup, c'est une super belle collaboration. C'est plutôt vraiment très bien passé, avec beaucoup de dates. C'était un peu plus complexe que d'habitude, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y avait faire venir quelqu'un des États-Unis régulièrement. Elle vivait pas en France, donc tout ça était. Il y a eu des moments où ça pouvait être un peu plus complexe.
Mmh. Et l'album, c'était Milk and Green, hein, Tony Green avec Malted Milk. Et on vous voit tous les deux, Arnaud et la chanteuse Tony, sur cette fabuleuse pochette. On est en 2014-2015. Voilà,
2014, ouais.
Ça passe
vite, hein.
Ouais, ça passe très vite, c'est vrai. Il y a 7 ans déjà. Et donc cette collaboration a donné un album. Il n'y a pas eu de volume 2, parce que chacun, je crois, est reparti dans son histoire. C'est un peu ça, Arnaud.
Ouais, c'est ça. On s'est posé la question, bien sûr. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu l'enchaînement un peu sur le Roots Combo. Une petite parenthèse que j'ai faite à un moment donné sur le Roots Combo, avec qui je continue à travailler aussi.
Et là, les gens vont pas croire que c'est en direct, mais tu vois, il y a Roots Combo qui passe derrière.
Non, trop fort.
Ouais.
Du coup, c'est une petite parenthèse qui a fait qu'on a pris un petit peu le temps derrière pour refaire autre chose avec Malted Milk. Et du coup, c'est vrai que... Je pense que Tony Green de son côté avait envie de faire son projet. Enfin, c'est vrai, là, c'était un peu Malted Milk et Tony Green. Et c'est vrai que Tony, je pense qu'elle avait besoin de faire son projet propre après cette expérience avec nous. Donc du coup, elle continue, si mes informations sont toujours bonnes, sa collaboration avec le même réalisateur artistique qui est Sébastien Danchin.
Sébastien Danchin qui est également collaborateur du magazine Soulbag depuis de très nombreuses années, producteur et tourneur. Un garçon qui sait tout sur tout et sur tout le monde.
Qui était une très grosse connaissance. Qui connaît très bien cette culture-là, qui a vécu aux États-Unis.
Qui a fait tourner des tas de gens comme Coco Taylor. Enfin, c'est un type
extraordinaire. Milton,
mais oui.
Aussi, ouais.
Et donc, ce Roots Combo inclut un autre Normand, parce que décidément,
ça ne suffisait pas d'avoir les trois de Spoonful. Il fallait également Thomas Trouchier, qui est à Nantes depuis un petit moment.
Non, on est vraiment
en veille. Et on écoute un extrait de ce disque. On est en 2017, ça s'appelle Two Train Running. Qu'est-ce qui t'a poussé, Arnaud, à monter ce combo à quatre musiciens avec presque de l'acoustique? Enfin, Igor est à la contrebasse, ouais. Tu joues. C'est assez intimiste, ça, comme sonorité. Ça reste électrifié, bien sûr, mais ouais, c'est pas multi-link. Hein.
C'est pas du tout. Ben non. En fait, moi, j'avais cette vraie envie depuis toutes ces années de tourner avec Mel Tennis. C'est vrai que j'avais perdu un petit peu cette facette de la musique, enfin du blues traditionnel.
Ouais.
Et je recommençais à ce moment-là, en parallèle de Mal d'Albic, à jouer en duo avec Thomas Troussier sur Nantes, sur les petites dates, tranquillement, de temps en temps, voilà, sans pression. Et puis à un moment donné, quand je me suis dit, bah tiens, ça aurait été dommage depuis tout le temps-là de ne pas essayer de faire un vrai projet avec cette facette. Mmh. Du coup, l'idée simple, quoi, c'est de dire, bah tiens, ça serait bien de ce répertoire en duo, de l'agrémenter d'une contrebasse, d'une percussion, batterie percussion, et du coup de faire un projet d'album. Et du coup, on a, voilà, c'est parti là-dessus, on a enregistré. Puis là, j'ai commencé un petit comme investir sur tout ce qui est vraiment production, enregistrement, et il s'avère qu'on a enregistré dans mon sous-sol.
D'accord.
Voilà, maison. En gros, dans 17 mètres carrés.
D'accord.
Et voilà, c'était cool parce que c'était une façon aussi pour moi de commencer à faire de la production. De laisser un peu porter par les morceaux qu'on avait, enfin les morceaux, des reprises, mais qu'on voulait vraiment essayer de réarranger à notre sauce. Et puis voilà, c'était une chouette histoire. En tout cas, c'était une très belle expérience.
C'est une formation qui existe toujours, tu peux toujours te produire sous ce nom-là?
Tout à fait. Ouais, je me produis pas mal d'ailleurs, parce que les moments, Mal d'Albic, on est quand même vite sur la route. Donc avec ce qui se passe en ce moment, enfin depuis pas mal de temps maintenant.
Il se passe des choses, on me dit jamais rien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Ouais, apparemment il y a un virus.
C'est pas vrai. Attends, mais ça fait deux ans que je suis coupé d'impôts. Oui, alors ça impacte évidemment les grosses formations.
Oui, d'une certaine manière. Et puis j'ai envie de te dire que des fois on sait pas comment les mois, enfin je veux dire l'année d'après, comment va se passer tout ça. Donc le fait d'avoir ces deux projets en parallèle, qui sont différents l'un de l'autre, tu vois, l'idée c'est pas de faire du Mal d'Albic en acoustique pour jouer à moins nombreux quand il n'y a pas de budget, tu vois.
Ouais, c'est pas le même répertoire, on est d'accord.
Et c'est pas du tout le même répertoire, et vous voulez surtout pas tomber dans le panneau de se dire, ah bah t'as vu, Mal d'Albic, ils ont fait un album de blues acoustique, enfin c'est quoi, enfin du coup ça n'a pas de sens. Et c'est important d'avoir une identité différente.
Avec justement un autre nom, Arnaud Fradin, On His Roots.
Ouais, voilà. Je que je sois vraiment, oui voilà, je suis chanteur guitariste accompagné par le Roots Combo. Et Thomas, bien sûr, pour moi, qui est très important. Thomas, c'est un peu devenu le Manu Frangel du Roots Combo, quoi. Enfin, je peux pas dire ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces manches. Je le trouve toujours avec un harmoniciste avec qui je trouve beaucoup de complicité.
Et on arrive en 2019 avec ce truc, cet ovni musical total. Deuxième grosse claque, personnellement, en ce qui me concerne, pour la première écoute de ce disque. Ah non, c'est vrai, Love, Tears and Guns. On avait fait une interview à ce moment-là, il y a un petit peu plus de deux ans. Et tu te souviens, je t'avais un petit peu critiqué la pochette. Tu m'avais expliqué, franchement, non, c'est pas un truc. Voilà,
c'est
un délicieux, quoi. Mais c'est un cœur.
Ouais, carrément. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que le choix, c'est un peu agressif. Le côté flingue et tout ça. Mais oui, effectivement, c'est touché. Moi, j'aurais dû traduire ça par toucher en plein cœur.
Voilà, touché en plein cœur, effectivement.
Plus qu'agressé par un flingue.
Et le côté soul qui retransparaît, mais alors de façon très très claire, hein, dans ce disque-là. Un petit peu comme ce nouveau hippie dont tu viens de nous gratifier, qui s'appelle Let Me Ride. Moi, ce que je te propose, Arnaud, c'est qu'on écoute un nouvel extrait de ce EP et puis on se retrouve juste après pour en parler. D'accord ?
Pas tout de suite. À tout de suite.
À tout de suite.
T'attends.
Tell me a secret, but with a bit of whiskey, I won't
Ça s'appelle Trust Me in the Morning et cet extrait du nouvel EP de Molten Me qui s'appelle Let Me Ride. Et je suis au téléphone, toujours en direct, avec Arnaud Fradin. Toujours là.
Toujours même. Voilà, super. Toujours là.
Chanteur, guitariste et leader de Molten Milk, on l'a dit depuis les 97, ça nous fait 24 ans d'existence pour le, voilà, pour le groupe avec pas mal de...
Ça me fait peur quand tu dis ça.
Ah oui, non mais attends, 24 ans c'est rien dans la vie d'un...
Ouais, c'est vrai, non, tu verras. Après quand t'as 40, c'est ouais, bah ça va.
Ça, oui, c'est mais tu es toujours jeune Arnaud, franchement.
Oui, ça va.
ce titre-là qui se termine un petit peu en gospel, enfin j'ai trouvé, l'ambiance un petit peu churchy comme ça. Et, on va souligner quand même le gros apport d'un gars comme Damien Cornelis au clavier quand même.
Tout à fait.
Un petit peu cheville ouvrière de cet album et puis également des précédents. Enfin, ça fait un moment que vous travaillez ensemble. Donc,
oui, tout à fait.
Lui, il fait partie de plein de formations, mais il est titulaire de Molten Milk.
Oui, il est là quasiment tous à 90% des concerts. Hein. On va dire même voir 92%.
Alors Arnaud, ce EP donc qui n'a pas encore de forme véritablement physique, donc distribué digitalement. Pourquoi digitalement seulement en ce moment, c'est compliqué.
Parce que c'était une stratégie particulière, mais en fait c'est vrai qu'on s'est dit parce qu'à partir du moment où tu fais du physique et par rapport à la distribution physique, il y a plein de choses, même financièrement. C'est toujours un peu plus compliqué parce que on voulait pas représenter ça comme un album et avoir un truc, quelque chose de légèrement plus confidentiel de ce qu'on fait habituellement, si tu veux, pour laisser le champ sur un album qui sortira l'année prochaine, enfin voilà. Et donc pour ça qu'on a mis un peu moins de moyens entre guillemets, pas artistiquement du tout, hein. Bien au contraire, je trouve que plutôt artistiquement je pense qu'on a essayé en tout cas de faire quelque chose d'un peu différent de l'album d'avant, mais on continue de faire recherches, de faire des choses un peu différentes quand même.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'était une approche qui n'était pas la même. Donc je pense que c'était une volonté de dire on fait un petit EP, 5 titres et après on enchaîne sur autre chose, quoi. Hein. On se laisse pas 2 ans avant d'en sortir un autre derrière, quoi.
D'accord, c'est peut-être aussi une façon de dire on est toujours là, les gars, nous oubliez pas.
C'est ce qu'on demande. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la conscience aussi que en fait c'est un peu différent, c'est-à-dire que tu commences à voir aujourd'hui des albums qui sortent avec pas 14 titres ou 15 titres, quoi. Des albums où ça peut même être ramené à 8,
oui,
7, 8, 9 titres. Et moi je trouve ça chouette en fait, parce que quand c'est des bons titres en fait, t'as pas envie, enfin je veux dire un album quand t'as 15 morceaux, des fois c'est trop long, quoi.
Ouais, il faut savoir le remplir aussi avec de la qualité jusqu'au bout.
Exactement, et moi maintenant je suis plus friand d'un bon album avec peu de titres mais bien choisi que plein de titres et dans les 15 titres t'en as 8 que t'aimes vraiment, quoi.
Ouais, et là tu parles en tant qu'amateur de musique et en tant que personne qui achète des disques, hein, pas seulement en tant qu'artiste. Alors justement, si tu te mets à la place du consommateur, de l'amateur de blues qui va consommer de la musique en live, alors comment est-ce qu'on peut faire pour se le procurer, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui sont toujours bien
cachés. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cet abonnement streaming et tout ça. Mais cela dit, moi je trouve qu'aujourd'hui, je pense qu'à une époque, on dirait MP3, égalité, c'est pourri, c'est pas top et tout ça. Moi personnellement, par exemple, moi si je peux donner mon exemple.
Bien sûr.
Personnel, moi je suis inscrit sur, je me suis abonné à Qobuz, qui est français, c'est un truc de streaming français et qui offre dans le. L'abonnement le plus alors qu'il est un peu plus cher mais qui est pas si cher que ça finalement avec un abonnement avec une super qualité voire meilleure qualité qu'une écoute que
le CD
le format disque,
oui,
qui est 44 100 et 16 bits et là ils vont jusqu'à 96 kilos 96 enfin bref en tout cas bon c'est technique, hein. Moi je veux dire par contre moi j'ai trouvé une vraie qualité quand j'ai écouté. Et du coup quand j'écoute mon disque que j'ai produit sur Cobalt, j'entends mon mix. Et quand j'écoute sur Spotify, j'entends pas mon mix.
Ah oui, donc
j'entends
ça veut dire que à 40 ans passés, toi qui es déjà un vénérable musicien, tu gardes encore des oreilles intactes, c'est une bonne nouvelle ça.
Bah oui, c'est vrai, malgré ma Telecaster qui m'a cisaillé quelques fréquences. Mais mais je suis attentif à ça, c'est plus important. Oui. Ça, quand tu fais. Moi j'ai fait et je pense que ça, le côté négatif pour moi du digital et ce qui pourra clarifier aujourd'hui, c'est tout ce qui est les droits d'auteur, les pourcentages qu'on touche sur tout ce qui est diffusé. C'est vrai que là c'est un peu compliqué, Mais le problème, c'est qu'on peut pas aller à l'encontre de l'évolution inéluctable
d'accord,
de la technologie. Ouais, quoi. Ouais, les gamins aujourd'hui, ils n'achètent pas de CD, ben, clairement. Quoi.
Et c'est donc, vrai. Et l'objet CD, peut-être davantage l'objet vinyle finalement pour les plus jeunes maintenant. S'ils veulent acheter des disques.
Ouais. Ben moi, j'ai ce que je fais, ça peut m'arriver d'acheter un CD, mais franchement, c'est rare. Et c'est plutôt un disque en streaming que j'ai écouté, que j'adore, que j'écoute souvent. Putain, celui-là, j'aimerais bien l'avoir en vinyle. Et là, je me le commande en vinyle, quoi. Ouais. C'est vrai, hein. Mais je pense que je suis pas le seul à faire ça. Et après, malgré tout, ben nous, on vend quand même du CD parce que on touche à travers Malten Milk ou le Roots Promo, on touche des publics qui sont quand même des publics très blues. Et des publics qui sont un peu plus âgés, en qui ont toujours la collection de CD, qui ont toujours lecteur CD.
Mais je vois exactement de quoi tu parles, effectivement, on a plusieurs générations.
Coup, on en vend pas mal des CD sur les concerts. Des fois, ça peut paraître surprenant sur un format qui disparaît. Mais je te dis que je pense que si on avait un public qui était plutôt un public jeune en faisant, je sais pas moi, de la musique plus actuelle, entre guillemets, sincèrement, je pense qu'on voit moins, tu vois moins de CD dans ce réseau-là, quoi. Alors, après, il y a le contre-exemple de. Je sais pas, d'Orelsan, par exemple, hein, bon, qui est pas dans le style de musique que nous. Hein,
mais comme il est de Caen, tu vas bientôt l'intégrer dans Molten Milk,
voilà,
d'accord.
Exactement, je vais l'éviter. Mais non, mais lui qui a sorti un truc en CD, qui a proposé un produit, entre guillemets, en proposant un support qui est différent selon le disque que tu vas acheter, en fait, c'est un ordre aléatoire, et du coup, avec le choix entre 8 pochettes qui correspondent aux 8 chansons du disque.
Wow.
Et du coup, grâce à cette espèce de com, il en a vendu, il a vendu 80% de ses disques en physique.
D'accord.
À la sortie, quoi.
Alors
voilà, comme ça, tu peux, et sur un public jeune. Tu vois, c'est compliqué. En fait,
ouais, ça devient compliqué. Parfois, sur un malentendu, effectivement.
Mais, oui, c'est un peu ça. Mais après, voilà, vous avez compris avec son temps, mais c'est pas pour autant qu'on faut. Enfin, c'est vrai que moi, je suis assez curieux de ou en tout cas, j'ai envie que ça change, surtout l'aspect streaming, où nous, franchement, on gagne peanuts un peu derrière. Hein,
Alors, Arnaud, on parlait des 24 années, à peu près, depuis le début, qui sont écoulées depuis le début de Molten Milk. Je voulais savoir si toi, tu avais un regard particulier, maintenant qu'on vient d'écouter un peu tous les albums, et puis que, de toute façon, voilà, tu repenses très certainement de temps en temps à ce que tu as pu faire autrefois, même si je vois bien, hein, tu es vraiment axé sur le présent et l'avenir. En passant un petit coup de rétro, qu'est-ce que tu as comme regard sur la carrière de Molten Milk depuis toutes ces années, Arnaud?
Bah écoute, je sais pas, moi des fois j'ai l'impression d'avoir l'expérience et puis de me rendre compte et de dire ouais, arrivé ici, c'est cool. Et puis il y a des moments où c'est toujours, je sais pas comment dire ça, mais il y a des moments où je me sens un peu comme le gamin qui joue de la guitare et qui kiffe sa vie. Je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me sens pas du tout. Quand on me dit des fois, je crois des gens qui disent ouais, carrière.
Attends, excuse-moi, Arnaud, on t'entend plus tellement bien, je sais pas ce qui se passe, il y a peut-être le téléphone qui s'éloigne.
Vas-y, c'est bon là ?
Ouais, c'est bon là.
Ça va être bon. Du coup, ouais, il y a des moments, je t'avoue, c'est marrant parce que j'ai cette double sensation d'avoir pas mal d'expérience, pas mal d'années de tournée, pas mal de. Voilà, et puis il y a des moments où je me sens comme le gamin que j'étais à l'époque, qui commençait la musique et qui dit ouais, putain, je peux mieux faire. Et c'est vrai que c'est bien, mais c'est marrant, c'est une espèce de dualité que je ressens à travers la carrière du groupe, parce que je sens qu'on peut toujours évoluer et aller vers quelque chose qui peut être de mieux en mieux, mais après, ça veut dire quoi, mieux en mieux, quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours assez. C'est subjectif, en fait.
Bah, en tout cas, voilà, toujours essayer de se surpasser et pas se contenter de ce qu'on a déjà fait, c'est un peu ça. Quoi.
Parce qu'on tire une leçon à chaque disque qu'on fait, donc, et puis dans chaque disque qu'on fait, avec le recul, j'apprécie rarement tout de suite, d'une manière relativement objective, les albums qu'on fait. C'est-à-dire que je mets souvent quelques années.
Ah oui.
Pas quelques années, mais je veux dire.
Tu veux dire que tu es exigeant au point de te dire, attends, on va tout recommencer, et c'est les autres qui disent, non, au bout d'un moment, il faut le sortir, le disque, Arnaud, on va laisser.
Ouais, non, j'essaie d'aller jusqu'au bout, puis de dire, de toute façon, même si ça me plaît pas complètement. C'est-à-dire, par là, c'est quand t'as écouté trop de fois.
Oui.
Certains morceaux que tu fais, bon, au bout d'un moment, t'as moins le recul, donc à un moment donné, il faut aller au but et il faut arrêter de tergiverser, quoi. Donc, et puis de se dire à chaque fois qu'un disque, c'est un instant T, c'est un moment donné dans l'histoire du groupe, et que tu marques ça dans le temps, et voilà, et puis c'est pas parfait, mais un disque n'est jamais parfait. Enfin, je veux dire, c'est jamais parfait. Tu parles avec n'importe quel artiste, ils vont dire ah ouais, non, c'est con, tu vois, si j'avais su, j'aurais plutôt fait comme ça, tu vois. Mais bon, sinon, tu passes ta vie à produire un seul disque, tu vas remixer tous les ans.
Il y a quelqu'un qui a fait ça il y a pas très longtemps, tu le connais sûrement, il évolue pas forcément dans le blues, mais c'est une musique sœur. Je veux parler de Elliott Murphy, qui a réenregistré en 2018 son album de 1973, Aquashow. Il a fait ça avec son fils, qui est devenu producteur, cool. Gaspard. Et donc, il a refait exactement toutes les mêmes chansons dans le même ordre, avec bien sûr une orchestration complètement contemporaine, 35 ans après. Ouais. Voilà, c'est une démarche que j'estime courageuse et belle. Est-ce que c'est le genre de choses dont tu te sentirais capable dans les 10-15 ans, dire tiens, on va tout remettre à zéro, on va reprendre ce morceau-là, j'aurais voulu qu'il sonne comme ça, je recommence tout. C'est possible ça pour toi?
En plus, sachant que Maltelmil est quand même un groupe qui a beaucoup composé, surtout depuis que l'équipe de Canet sont arrivés.
Oui.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de compositions, beaucoup de climats différents et tout ça, donc c'est des chansons qu'on peut aussi réinventer, quoi. Et déjà, d'ailleurs, qu'on réinvente sur scène aussi, parce que finalement, quand tu fais ton disque, c'est une chose, mais après, quand il faut réadapter tes chansons pour la scène, c'est accaparé d'une manière différente. Donc c'est vrai que j'ai envie de te dire que des fois j'aimerais peut-être, enfin, ce qui est pas évident commercialement parlant, mais je serais curieux un jour de faire un disque après avoir fait une tournée.
Ah oui, oui, d'accord.
De faire une tournée après avoir enregistré un disque, parce qu'en fait finalement le fait de jouer les morceaux sur scène, tout ça, tu les vis, tu les fais évoluer, tu cherches aussi à aller plus loin. Et du coup, je trouve que des fois, le morceau, on le joue mieux au bout d'une année de tournée que quand on jouait dans le studio, quoi. Mais après, le studio, il peut y avoir la fraîcheur. La fraîcheur de la découverte de la chanson, comme on a eu dans Love Tears and Guns, où on a notamment un morceau qui est la première mouture de l'enregistrement, quoi, d'une structure d'une chanson, quoi.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'on a gardé quasiment la maquette, quoi. Et ça, c'est cool aussi, parce que du coup... T'as toute cette découverte du morceau qu'on faisait nous-mêmes et qu'on a gardé parce qu'on s'est dit ben non, ça marche, on a écrit des paroles après derrière et tout ça. Et puis bon, en fait, c'est là qu'aussi tu t'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de règles magiques. Tu dis que pour faire un disque,
ouais, effectivement,
il faut faire de cette manière-là ou de cette manière-là. Il n'y a pas mille façons de faire un album.
Arnaud, une autre question pour en terminer avec cette interview, juste avant de te demander quelles sont les prochaines dates. Enfin, j'imagine qu'on peut les retrouver un petit peu partout, les prochaines dates de concert de Maltelmil. Mais si tu devais faire un best-of Maltelmil, ça n'existe pas encore, mais ça viendra peut-être. Est-ce que tu penses puiser dans tous les albums ou est-ce qu'il y en a que tu vas écarter définitivement?
Non, pas du tout. Non, je pense que il y a des albums sur lesquels il y a des morceaux que je kiffe moins, mais pour plein de raisons différentes. Ça peut être pour la prod, ça peut être parce que la chanson je la kiffe pas forcément avec le recul aujourd'hui, ou parce que je trouve que je la chante mal. Mais dans tous les albums, franchement, il y a des trucs qui me plaisent. Enfin, dans chacun, il y a des morceaux qui me tiennent à cœur.
D'accord.
Et oui, je pourrais facilement faire un petit best-of avec des morceaux tirés de tous les albums, quoi.
Très bien. Quand est-ce qu'on aura l'occasion de te revoir sur une scène, Arnaud, avec
Écoute, il y a des dates. Alors, le mieux, c'est d'aller voir sur le site internet, qu'on a des dates qui sont encore en option en 2022. Là, on attend un peu des réponses. Tout ça, puis c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vu le climat, il y a les reports de dates pour certaines.
Ouais, donc, il faut peut-être mieux se pencher sur le Facebook. C'est peut-être un peu plus actualisé.
Ouais, c'est mieux.
D'accord.
C'est mieux. Et puis, on joue là sur Nantes. On fait une date pour la bonne cause, pour les recurrents du cœur. C'est une soirée, concert pour lesquels les gens ramènent un jouet.
Oui, d'accord.
Pour les enfants. Ouais. Voilà, qui n'ont pas de jouet pour Noël. Et puis, du coup, on fait un concert. Il y a Delgrèce, d'ailleurs, qui partage la scène avec nous ce soir-là. Donc, ça va être chouette, ouais. Maintenant, dans notre ville. Donc, écoute, ça va être sympa avant Noël. Ça va être le petit concert avant Noël. Et sinon, on attend les dates, là, pour 2022. Ouais.
C'est pour quand ce concert, les recurrents du cœur?
Le 18 décembre, ouais.
D'accord. Et bien, rappelons qu'également, dans le même cadre, il y a un groupe qui s'appelle Rosedale qui va se produire le week-end prochain à la Traverse à Cléon. Une salle que tu connais, d'ailleurs, hein.
Oui, on s'est croisés, hein.
Exactement, ouais. Écoute, merci pour tout ça, Arnaud. On a pu revenir un petit peu sur ces années Maltelmil et puis découvrir ce nouveau hippie qu'on va continuer à écouter dans Sweet Home Chicago et sur toutes les stations, je l'espère, du collectif des Radio Blues et ailleurs. Et puis, bon vent à toi. J'espère qu'on se reverra bientôt sur la route du blues, Arnaud.
Bah oui, bien sûr, Marc. Plaisir.
Au revoir, Arnaud. Merci beaucoup.
Ciao,
oui.
Ouais, la bise.
Ciao. Ciao. Bise.
flying by, even though we break up. Now it's time for me to make up and make a move before it gets dark. We've gone too far. I wanna call. We've gone too far. I wanna call. We've gone too far. I wanna call.
Laissez Arnaud rentrer à la maison. I want to go home, extrait de Let Me Ride Molten Milk. Et on continue avec 50 Years After. On est en 1971. Elle s'appelle Joni Mitchell. L'album, c'est Blue. Et ça s'appelle All I Want.
You wanna see, wanna knit your sweater, wanna write your love.
Et oui, depuis le début de l'année, on revient sur l'année 1971, 50 Years After, 50 ans après, les albums de cette année 71 résonnent dans chaque émission Sweet Home Chicago. Et je suis déjà en train de me demander ce que je vais pouvoir vous faire écouter en 2022. On poursuit avec un disque de 1988, une petite vieillerie, pas si vieille que ça, ça fait quoi, 33 ans. C'est chez iTone Records, repris par Ace Records, un album de Joe Louis Walker intitulé The Gift, avec un des titres créés par son bassiste Henry Oden. Je vous propose Shade Tree Mechanic, Joey Louis Walker. Et c'est en vinyle.
Special pressure day. My work is guaranteed, guaranteed for 30 days. I want you to put me under your shade tree. Please get me out of the sun, 'cause I'm your shade tree mechanic, and heaven knows I'm the one.
Voilà, on revient de temps en temps au format vinyle dans Sweet Home Chicago et ça fera peut-être plaisir également à Arnaud Fradin. Merci encore pour cette interview tout à l'heure pour évoquer Mountain Milk. Et puis nous, on va se séparer sur ce dernier morceau signé Big Dead, 300 Miles for a Chat. 300 miles for a chat. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 13h. Salut, bye bye. Some shoes.